Bonjour messieurs. Ça ne changera pas celle-là.
Il fait toujours beau, il fait toujours chaud, on est toujours enfermés. C'est toujours les mêmes gars.
Toujours Sébastien et Marc, ou Zion et Clandestino, ça dépend.
Et cette fois-ci,
vous
c'est le numéro 5, déjà.
C'est le 5 déjà?
Ah, c'est magnifique. Le 5.
C'est dingue, le temps passe vite.
Incroyable.
De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui, mon brave?
Alors, qu'est-ce qu'on a en stock? On a, le truc qui a fait mal à beaucoup de monde, l'interdiction des avertisseurs de radar en France, et ça va débarquer en Belgique, oui ou non, grand suspense. Les extensions de garantie,
dont on
devait
parler la dernière
aussi.
Fois, cette fois-ci on y arrivera peut-être.
La grosse news de la semaine qui a fait peur à tout le monde aussi et qui a fait vaciller pas mal de gens, c'est le rachat de Skype par Microsoft pour des montants qu'on n'ose même pas imaginer.
Le petit Google versus CopyPress derrière les fagots qu'on avait oublié, mais qui est revenu en appel cette fois-ci, donc c'est la fin de la fin pour Google.
Non, il reste toujours la cassation, mais bon, ça... Et alors, on est allé voir, on a pris notre sac à dos, on est allé voir la présentation du nouveau line-up de Packard Bell, ils nous ont invités, on a bien bouffé et tout, mais derrière ça, il y a une grosse question. Au fur et à mesure que le temps passe, on voit de moins en moins d'innovations et de plus en plus de design tendance fashion. On a vu des modèles roses affreux.
Casse pas tout le suspense, il faut en laisser un petit peu.
On vous en parlera, donc débat, PC portable, innovation ou juste design.
Alors, donc, premier sujet, les avertisseurs radar. On a vu, ça a été une grosse surprise. Enfin, pour moi en tout cas, j'avais rien vu venir.
Personne n'a rien vu venir.
Et sécurité routière oblige, diminution des morts, interdiction des avertisseurs radar. Alors, déjà, il y avait les avertisseurs radar en tant que tels étaient interdits. Les détecteurs radar.
Les détecteurs radar, oui, les détecteurs actifs. Effectivement.
Tout à fait. Et il y avait une brèche, si on peut dire, dans la législation, c'est que ceux qui avertissaient de « là, il y a un radar », sans détecter le radar lui-même, étaient autorisés. Donc c'était tous les constructeurs se sont rués sur le filon pour lancer des petits dispositifs logiciels ou matériels pour pouvoir détecter les radars. Et puis d'un coup, le gouvernement français nous dit « oh, les cocos !» On peut pas. Alors, est-ce que c'est une première en Europe?
Non, c'est pas une première. Il y a déjà la Suisse qui avait adopté une législation dans le même sens, qui en fait interdisait tout dispositif visant à localiser un système de contrôle. J'avais pioché un peu sur Google pour avoir plus de détails. Je peux retrouver rapidement le truc.
Mais en fait, c'est d'un côté, c'est moche. Pour les braves consommateurs que nous sommes, qui préférons ne pas se prendre un PV et que la machine nous rappelle que le radar est là, on doit bien vérifier qu'on n'a pas dépassé les 120, parce que une distraction arrive et une distraction à 100 balles dans les dents, ça fait toujours mal.
Tu parles.
D'un autre côté, il y en a qui effectivement détournent la technologie. On voit en France, c'est peut-être beaucoup plus frappant qu'en Belgique. On a l'impression que dès qu'on voit un radar, les gens pilent tous devant comme des bourrins, et puis on repart après comme des brutes à 160, 180, sans se poser de questions sur l'autoroute. Et donc là, effectivement, ça crée des problèmes de sécurité. C'est marrant, hein, comme on finit par parler de bagnole alors qu'on est dans
ce qu'il faut se dire aussi, oui et non, quand on voit par exemple la manière dont le gouvernement belge a réagi à la nouvelle via le porte-parole du secrétaire d'État à la mobilité, eux partent du principe qu'ils n'ont pas l'intention d'avertir les avertisseurs radar, enfin d'interdire, pardon, les avertisseurs radar, tout simplement parce que pour eux, et ça, c'est quelque chose qui est motivé, entre autres, par l'IBSR, qui souligne plutôt la difficulté d'appliquer une interdiction drastique sur le terrain. Mais bon, la motivation, c'est que les personnes qui reçoivent ce genre d'informations via les avertisseurs, ce soit des trucs hardware, style les coyotes, ou bien des trucs software, style ce qui est embarqué dans votre TomTom ou dans votre smartphone préféré, par exemple. Bah, en fait, les personnes qui reçoivent ce genre d'informations ont tendance à rouler plus prudemment. Et puis, de toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est que ce genre de décision ou ce genre de technologie ne sera absolument pas ne saura absolument pas tenir face au nouveau système de radar. Donc, on pense notamment à ce qu'ils ont installé du côté de Liège, où il y a des systèmes de reconnaissance optique de plaques couplés à des détections de vitesse moyenne. Et voilà, là, que vous fassiez plus vite ou moins vite,
Oui,
vous
comme
n'avez
c'est
pas le
une
choix.
moyenne, c'est clair, c'est
C'est
une
une
moyenne sur la
moyenne,
distance.
donc.
Mais ça, je veux dire, c'est le système ultime de informatique pour vérifier, plutôt que de se poser la question d'un point particulier. Mais on peut aller plus loin, on pourrait faire des détections avec des GPS obligatoires dans les bagnoles et bon, la technologie du Big Brother peut aller beaucoup plus loin que ce qu'il ne fait maintenant. Le système de Liège est pas mal parce que, enfin, il est pas mal d'un point de vue
D'un point
gouvernemental.
de vue technique, on s'entend.
Que d'avoir un point où, pour finir, certains qui roulent mal on voit les freiner comme des cons. Et, enfin bon, chaque système a certainement ses détracteurs. Mais il n'y a pas donc prévu d'interdiction en Belgique pour le moment
En
là-dessus.
Belgique, non. Par contre, il y a un excité de sénateur américain qui a rebondi sur l'annonce française et qui a du coup introduit une proposition de loi aux États-Unis, donc pour demander l'interdiction pure et
Tiens,
dure.
en tout cas, certes, les constructeurs français vont faire appel, hein. Si j'ai bien lu, ils vont faire une petite association et s'énerver et aller en
Et ils
justice
se
pour
sont
essayer.
déjà constitués en association l'AFTAC, d'après ce que j'ai pu comprendre. S'ils sont
Et
le...
quid des utilisateurs belges qui passent en France? Tu vois, on est cons, hein, mais.
Eh ben justement, figure-toi que moi je me suis posé la question, vu que
Tu
je
pars en
vais
vacances?
bientôt partir en vacances, si ça arrive, incroyable, je vais bientôt partir en vacances et je vais transiter successivement par la France, la Suisse et l'Italie.
Oui, mais si tu vas en avion, c'est pas un problème.
Oui, c'est pas en avion que je vais en voiture. Donc,
Ah.
je vais avoir le problème en France, je vais avoir le problème en Suisse. En Italie, je ne pense pas que j'aurai le problème, vu que là-bas, de toute façon, c'est de
Ben, on
notoriété
roule comme on
publique,
veut, oui.
ils roulent tous comme des pétés. Pardon aux Italiens qui nous... Hein, Dan, désolé, mais c'est vrai. Et donc, quelque part, on n'a pas vraiment le choix. On va devoir se conformer à la législation en vigueur. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est est-ce que dans un délai aussi court, ils vont vouloir réellement mettre en place les ressources nécessaires pour pouvoir contrôler ça au jour le jour et de manière efficace? Faut pas oublier, à côté de ça, le gouvernement français a aussi prévu, dans toutes les mesures qu'il compte appliquer, le fait de supprimer complètement toute la signalisation existante actuellement et qu'on a aussi en Belgique, la signalisation qui
Ouais.
avertit de
Mais bon,
l'emplacement
ça,
du radar
arracher des
fixe.
panneaux, ça va vite,
Arracher des panneaux, ça va vite.
hein.
Maintenant, il faut voir comment cette décision sera reçue au niveau de l'opposition politique. Ça, c'est déjà une chose. Il faut voir ce que les associations des constructeurs et des développeurs de logiciels Idoine seront à même d'avoir comme action. Mais c'est clair que c'est quelque chose qui est... Encore une fois, c'est un peu le bazooka pour dégommer la mouche, quoi.
Ah, la bonne pauvre petite mouche.
Ouais.
Allez,
T'as pas... Non,
sujet
mais
suivant,
franchement,
non?
tu n'as pas cette impression?
Non, j'ai juste l'impression que c'est juste une répression autoritaire sans réellement une réflexion derrière, parce que je vois bien nos braves policiers aller vérifier sur les dizaines de téléphones différents, de GPS différents, de GPS embarqués, que les radars sont ou pas recensés dedans. Ça va être. Bah, enfin, c'est une mesure impossible à appliquer dans la pratique, donc
C'est bien ce que je pensais.
c'est quoi le deuxième sujet? J'y suis, je suis perdu,
L'extension
l'extension
de
de
garantie.
garantie. L'extension de
Ouais.
garantie. Alors ça, c'est un truc qui m'énerve depuis quelques mois. On voit ça sur tous les trucs. Bah, pas tous, allez, il y en a au moins un ou deux qui échappent, mais tous les sites e-commerce qui vous proposent de l'high-tech. Alors c'est vous achetez une souris et on vous propose les 2 ans de garantie qui sont obligés. En plus de ça, on vous propose des assurances à la con. Hein, vous avez déjà mon sentiment sur l'assurance pour que pendant 5 ans on vous garantit que la souris elle va toujours fonctionner, que vous pourrez avoir un retour plus rapide en cas de panne, machin, etc., etc. Et en fait. Si on regarde la durée de vie d'une périphérique comme une souris, pour prendre juste la souris, mais ça va être la même chose sur les téléphones portables, et sur plein de tout le matériel électro. La durée de vie de ces équipements suit une courbe en baignoire, comme on dit.
Exact.
La courbe en baignoire, c'est-à-dire que si vous avez une panne sur votre souris, il est fortement probable que ce soit dans les premières semaines d'utilisation, et puis la courbe descend très fortement, et ça c'est quasi tout plat pendant toute la durée de vie de l'appareil, et puis la courbe des pannes remonte sur la fin. Quand on a décidé qu'après 2 ans ou 3 ans, le matériel commence à vieillir, l'usure, etc. Et donc, c'est les deux moments où le matériel tombe en panne, le plus souvent, c'est le début et la fin. Et pendant, s'il n'est pas mort tout de suite, bah, il est probable qu'il tienne jusqu'à ce que vous en ayez marre ou jusqu'à ce que réellement une des pièces lâche. Et donc, de mettre ces garanties pour aller beaucoup plus loin que ce qui n'est réellement utile pour la plupart des gens, bah, c'est un marché en soi pour pas mal de sites pour rajouter une petite marge.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le mouvement a été lancé avec des magasins retail. On pense notamment à Vandenborg, qui est le grand spécialiste des Garanties Plus, et Macro également. Maintenant, à côté de ça, encore une fois, comme l'a dit Sébastien, c'est vrai que ce type de courbe est typique surtout de tout ce qui est matériel électronique, et j'en veux pour preuve que mon papa, qui a acheté une nouvelle télé à écran plat de la mort qui tue il n'y a pas 3 mois, eh ben, s'est vu proposer, mais de manière plutôt agressive par le vendeur, de prendre leur fameuse garantie plus qui lui couvre absolument toutes les pannes d'effectuosité possibles et imaginables, en sachant que derrière ça, il y a ce phénomène d'obsolescence programmée dont on a déjà discuté précédemment, et qui, lui, s'applique systématiquement aux objets et aux articles qui sont couverts aujourd'hui par ce genre de garantie. Donc, est-ce qu'on peut ouvertement considérer ça comme un foutage de gueule? Moi, j'aurais clairement tendance à rejoindre mon estimé confrère sur le sujet et sur l'opinion. Franchement, oui, on a tendance à nous prendre un peu pour des cons.
Ouais, il n'y a pas que des petits magasins hein, qui le font sur le net. On prend des LDLC, on prend des Pixmania, et ils montrent tous ça comme étant un super avantage qu'on vous propose. Si vous le prenez pas, vous êtes vraiment débile. Alors, si on prend l'exemple de LDLC, le plus simple pour ouvrir un panier chez eux, on a le prix classique hein, où on le met sur la gauche de 3 colonnes, où on vous fait comprendre que vraiment, si vous prenez ça, vous êtes très con. Et vous avez une garantie de 1 an, alors que ben, essentiellement, en principe, en Europe, sur l'électronique, vous êtes parti pour au moins 2 ans. Comparé à du confort 2 ans et expert 5 ans, donc on vous dit déjà, allez, payez X% en plus pour au moins avoir 2 ans. Que vous n'avez pas de numéro surtaxé pour avoir du support. Que vous avez la période de retour passe de 2 mois à 1 an ou 2 ans sans, et quand pendant ce temps-là on vous rembourse les frais de retour. Qu'est-ce qu'il y a encore? On vous permet de la revendre sur le site. À chaque fois le délai augmente. Et alors pendant vous avez un traitement qui est préférentiel pour votre échange en cas de panne,
Donc
avec un échange immédiat.
ça veut dire qu'en cas normal, ta demande d'échange, elle est classement vertical, quoi.
Ouais, non, elle arrive après les autres. Mais je veux
D'accord.
dire, c'est débile. Parce que enfin, le plus gros changement, c'est de passer réellement de 1 à 2, voire 5 ans de garantie. Et pour ça, sur un matériel qui coûte 50 euros, on vous en rajoute 15 euros. Bon, à ce prix-là, sur 5 ans, vous avez quand même plutôt intérêt à penser à le remplacer dans 5 ans. Bon, évidemment, ici,
Clair.
oui, c'est l'obsolescence programmée, mais dans 5 ans. Ils savent de toute façon que vous n'aurez pas envie de le remplacer parce que vous en aurez marre de voir la gueule de votre souris depuis 5 ans tous les matins. C'est vraiment pour ça que ces types d'assurances sont totalement voilà, inutiles pour la plupart des produits.
Oui, c'est clair que c'est poussé à la consommation uniquement. Tout comme, je fais un petit parallèle avec vous commandez quelque chose sur un site qui vend des cartes de visite, des flyers, etc. bien connus, hein,
Oui,
c'est un
oui.
prix pour pas le poulain. Au moment où vous passez votre commande, vous devez vous farcir approximativement 8 pages, les unes après les autres, qui chacune vous pousse à acheter des tampons, des stickers, des autocollants, des fards, des cartes de visite.
Ça me fait un peu penser à la Ryanair, hein,
Oui, c'est vraiment ça.
et qui râlait encore il n'y a pas longtemps. Enfin, il y avait la RTBF qui râlait dans une émission. que entre le prix affiché à la base et le prix à la fin qu'on paye, parce que on vous taxe des frais de paiement Visa, on vous taxe des frais sur le port, sur l'impression du ticket, etc., etc., que c'est, il y a un gros problème sur la transparence des prix, hein.
Oui, mais c'est en train de le fait est que ce genre de comportement est en train de s'ériger quelque part en modèle économique et c'est ça qui est inquiétant.
Ah oui,
Mais bon.
on vous vend le GSM à 1 € et à côté de, et pour le recevoir chez vous, c'est 200 € de frais de port.
On n'est qu'un blog et un site d'info IT. On est qu'un podcast. On n'est pas là pour fendre ni empoigner notre cheval blanc et partir nous battre contre les moulins à vent. Et bon, le fait est là, quoi. On a de plus en plus tendance à prendre le consommateur pour un pigeon payeur et ce système d'extension de garantie auquel, hélas, beaucoup de gens succombe pensant de faire une excellente affaire, ben ça en est manifestement la preuve.
Oui, c'est des petits euros par-ci par-là qui, en définitive.
Donc, si vous voulez réfléchir 2 secondes, quand vous achetez votre prochaine souris ou votre prochaine télé de la mort qui tue, ben réfléchissez bien ce que vous voulez en faire réellement et si vous comptez encore l'utiliser d'ici 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et n'oubliez pas la fameuse courbe en baignoire.
Mais un petit détail encore, d'ailleurs, si je peux, il y a un. J'ai vu au moins un site en Belgique là qui faisait de la vente de consommables qui, au lieu de vous proposer rajouter ce pack de garantie, il le mettait d'office. Il fallait le désactiver au moment du paiement. C'était encore plus
Non,
vicieux. Si, c'était
des
encore plus
noms, des
vicieux.
noms.
Alors ils vendent du bureau, mais c'était pour du professionnel, des articles de bureau. Ça commençait par un J et je ne dirai pas la suite parce qu'il n'y en a pas beaucoup.
D'accord,
Mais
on a compris.
ouais, je pense qu'ils ont changé depuis, mais il y en a quelques, c'était au moins eux le faisaient, et c'est voilà, c'est ridicule, c'est totalement ridicule.
Enfin bon, il n'y a pas de petit profit, comme on dit, mais il
Mais
y
bon,
a.
faut espérer qu'un jour quand même nos braves députés européens vont décider de mettre les pieds dans le plat, parce que c'est un problème qui existe sur le web, enfin qui se commence à généraliser sur le web, hein, tous ces problèmes de entre le prix qu'on vous annonce sur le site et le prix que vous allez le payer pour qu'il arrive chez vous avec des garanties un peu obscures. Bonjour pour troubler le consommateur, hein, Madame Pichemou, c'est pas évident, hein.
Non, Madame Pichemou, elle est complètement larguée et Madame Pichemou, le problème, c'est qu'elle fera ce qu'on attend d'elle, c'est-à-dire consommer, consommer, consommer. Mais bon, soit, nous, on n'est pas là pour philosopher non plus. On
Et
passe au
si.
truc suivant. Alors, sujet suivant,
Microsoft
Microsoft.
rachète Skype. Ah ben alors là, de nouveau, comme les avertisseurs radars, qui est surprise.
Ouais, parce que là, enfin. On avait eu des signes avant-coureurs, on avait entendu Facebook veut racheter Skype, on avait entendu
Ben, Google, Facebook,
Google veut
tout le
racheter
monde s'y
Skype, oui,
intéressait.
et puis Microsoft
Et
remporte
puis
la
là,
mise.
Microsoft, il sort de derrière les fagots et pop, 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 allez hop, il est à moi le petit Skype pour 8 milliards de dollars.
8 milliards et demi de dollars.
Oui, le demi.
8 milliards et demi. Moi, toi, je sais pas, mais moi, quand j'ai lu le montant, il a quand même fallu que je m'asseye 2 minutes pour
Oui,
comprendre un petit peu.
ben,
C'est
on reprend l'historique de Skype, c'est hallucinant quand même, parce que Skype,
Hallucinant.
c'est un logiciel qui date d'il y a à peine quelques années. Hop, je reprends tout de suite la petite fiche. Il avait été créé en 2003, en août 2003, donc une société qui, en 7 ans, allez, 8 ans presque, hein, en 8 ans, a réussi à se faire vendre pour 8 milliards et demi de dollars. Alors les créateurs qui n'avaient plus que quelques pourcents, même quelques pourcents de 8 milliards de dollars, ben, ils
Oui,
sont à
ça
l'abri
laisse
pendant
rêveur. Ça laisse
bien
rêveur.
des dizaines de générations. Alors, déjà, moi, il y a le petit cocorico, hein, de Skype. Ça me fait marrer que ce logiciel soit vendu aussi cher, parce que il est développé en quoi, le petit Skype?
En Delphi.
Il est développé en Delphi, cocorico. Bon, ça, c'est en Delphi pour la version Windows et en Objective-C sur macOS, évidemment, ça, il n'y avait pas trop le choix. Mais c'est du Delphi. Probablement que c'est un record du prix de l'application la plus chère vendue en Delphi. Ça me troue jusqu'au
Oui,
fond, complètement.
d'accord, oui.
Hein. Et le truc de Skype, c'est que en fait, si on se rappelle, il y a quelques années, il a été racheté par le groupe eBay.
Oui.
C'était pour 2 milliards et demi, 2,6 milliards, et qui s'en est débarrassé quelques années après, se disant, bon, ben non, ça correspond pas réellement à mon core business, et j'ai pas besoin de Skype réellement pour faire fonctionner avec mon petit eBay. eBay et PayPal, ça oui, mais eBay, PayPal et Skype, bon, ça sert à rien, ça fait pas des gros bénéfices, allez, je logique. Et puis voilà, tout le monde après se bat pour avoir un Skype à 8 milliards, c'est hallucinant. Surtout quand on voit que, question chiffre d'affaires, Skype, c'est des cacahuètes, hein.
Oui,
Enfin, des
effectivement.
cacahuètes, des grosses cacahuètes, mais ils font pas de bénéfices, hein.
Non, de toute façon, Microsoft a déjà annoncé, enfin pas annoncé, mais Microsoft a déjà prévu que les 2 premières années opérationnelles avec leur acquisition de Skype seront à fond perdues et ils continueront à perdre de l'argent. Alors, de toute façon, tu dis que Skype avait été revendu par eBay en 2009. En fait, oui, il avait été revendu à un groupe d'investisseurs qui contient divers fonds d'action américains et fonds de pension américains, ainsi que des fonds britanniques et canadiens. Mais eBay avait quand même gardé 30%, je crois, du capital de Skype. Il avait cédé 65-70% du capital contre, à l'époque, 2 milliards de dollars, effectivement. Les gars qui ont fait l'opération aussi, ce groupe d'investisseurs, ils doivent se frotter les mains, quoi.
Oui, depuis 2007, qui est l'année à laquelle eBay s'en était largement débarrassé, donc en 4 ans, ça fait une augmentation de 300%.
Ouais. Ça fait.
Donc les fonds de pension américains, bon, bah, au moins cette fois-ci, ils ont un petit peu de sous.
Ouais, c'est clair. Mais maintenant, ça pose un peu le problème aussi. Qu'est-ce que Microsoft va bien pouvoir faire avec Skype? Alors, on a déjà évoqué l'arrivée massive, de Skype sur Xbox. La renégociation des accords de Skype sur PS3 avec Sony. Donc, Sony, ils vont encore en dé. Si ça se vérifie, Sony va encore déguster. De toute façon, ils dégustent de tous les côtés pour le moment.
C'est clair.
Mais voilà, mais qu'est-ce que Microsoft va bien pouvoir faire avec Skype, qu'il aura payé 8 milliards et demi, on le rappelle. Oui, moi je le répète parce que je suis tellement abasourdi par le montant. J'ai l'impression d'assister à un retour en force de la bulle 2.0 avec des montants totalement mais irréalistes pour des
Ouais.
boîtes qui n'ont
Si tu
quelque
frappes.
part rien produit de concret, quoi.
Oui, non, si, enfin, oui, si tu te rappelles nos discussions au premier ou au deuxième podcast, en fait, c'est une boîte qui, c'est pas du réseau social, mais de nouveau, ce qui intéresse certainement Microsoft, autant que le logiciel, c'est les dizaines, voire les centaines, je sais plus combien ils sont d'ailleurs,
22 millions?
de comptes qui sont Skype, qui sont créés, non, c'est plus que 22 millions.
Attends, il y a moyen de voir ça
J'ai un
rapidement.
souvenir d'avoir plusieurs centaines de millions, mais je ne me souviens pas du chiffre exact. Et voilà, c'est des centaines de millions de comptes de consommateurs qui utilisent ce logiciel de Voice over IP. Bon, ben, pour Microsoft, c'est gigantesque de pouvoir demain proposer des services en Voice over IP à ces gens. Ils avaient déjà quelques outils par le passé. Ils avaient fait du NetMeeting et compagnie qu'ils ont tué dans l'œuf parce que ça marchait pas. À voir s'ils vont utiliser Skype et les comptes de Skype pour en faire quelque chose à la sauce Microsoft ou s'ils vont le laisser fonctionner dans son propre écosystème. Ça, c'est pas gagné d'avance parce qu'à chaque fois qu'ils ont racheté quelque chose, ils ont plutôt eu tendance de l'intégrer dans leur technologie et dans leur écosystème à eux. Je m'en souviens d'un brave Virtual PC à l'époque de Connectix qui était magnifique et qui du jour au lendemain est devenu le Windows XP mode avec pas mal de fonctionnalités en moins par rapport à la
Ah oui,
version d'origine.
effectivement, on s'en souvient, hélas. Alors j'ai retrouvé le nombre, mais ce
Ah ben
nombre
voilà,
n'a plus évolué.
663 millions
Voilà, c'est ça.
depuis 2009.
Alors, t'es sûr? Parce que moi,
Un
sur le blog de...
Wikipédia qui me dit 663 millions de comptes utilisateurs, mais en actif beaucoup moins.
Oui, en actif, on est à 124 millions d'après les sources du blog Skype.
Ouais,
Depuis juin 2010, il y a 124 millions de comptes actifs.
ça fait quand même
Ça fait quand
80,
même
80$ le compte?
Ouais.
C'est ça, hein, je me trompe pas.
Sympa, ouais, à peu près, c'est ça.
Bah, écoute,
Et tout
bravo
ça pour un.
Microsoft pour la mariée, hein.
Ah ouais, non, et tout ça pour un truc créé à l'origine bidouillé par les deux anciens de Casa. Chapeau, messieurs, hein.
Ah oui, c'est que.
En voilà deux, en tout cas, c'est certain, ils n'auront pas de problème de fin de mois.
Et quel est le prochain logiciel, hein?
Quel est le prochain logiciel? Mais ça, ils sont sûrement déjà. C'est pas eux qui avaient commencé à développer Joust.
Si, le truc de télé.
Le truc de télé qui est un peu. Je sais pas où ça en est d'ailleurs, tiens, Joust. Parce que on a tous utilisé Joust pendant un certain temps. Qu'est-ce que Joust devient? Ah, Joust a vachement évolué visuellement, waouh. Mais c'est devenu beaucoup moins fun, du coup. C'est devenu.
Ça a l'air plutôt. Je l'ai ouvert, j'ai toujours pas la première image. Hein.
Non, moi non plus, ça stream à fond et ça rame à mort.
C'est
Et
juste une autre connerie.
c'est juste une autre. Oh, joli! Mesdames et
Merci.
messieurs, on applaudit la vanne du
C'est
vendredi.
quand même, hein,
Quand
du vendredi
même.
13.
Ouais, date vendredi 13 en plus.
Non,
Mais voilà, donc bah, je crois qu'on a fait le tour sur Skype. T'as autre chose à dire?
non, clairement. Bah si, on l'utilise, merci Skype, hein, donc
Bah, on
et
l'utilise
puis
pour
c'est.
l'instant d'ailleurs, voilà, juste
Bon,
maintenant. C'est grâce à
voilà.
ça qu'on enregistre votre magnifique podcast.
Donc ça a déjà été pas mal. Il y a juste quelques petits bugs par-ci par-là dans Skype, mais sinon j'espère qu'il continuera à fonctionner en multiplateforme, que ce soit sur Android, sur Windows, sur Linux, etc. Et sinon, ben.
Ah tiens d'ailleurs, puisqu'on est là, Microsoft, si vous nous écoutez, peut rêver, hein, on sait
Mais
jamais.
non, il y a deux pelés qui nous écoutent. Personne. Levez la main ceux qui nous écoutent.
Ben
Je
alors,
vois personne n'a levé la main.
tu peux me dire ce qu'on fout alors avec un soleil pareil? Enfin non, ça se
On
couvre.
s'amuse, on s'amuse.
Non, mais Microsoft, si vous nous écoutez, s'il vous plaît, revenez en arrière par rapport à la connerie que Skype a fait, rouvrez le protocole, que d'autres messageries unifiées puissent l'intégrer, hein? S'il vous plaît, Pidgin. Quoi, non?
Je rigole, quoi. Mais
Tu
alors,
rigoles.
Microsoft ouvrir le protocole de Skype.
On peut rêver, hein? Et
Ok.
Microsoft a bien un jour publié une partie du code de Windows en open source. Les
Oui, et
miracles, ça
d'office,
existe.
même parce qu'ils se sont pris un coup de latte sur les doigts, mais alors monumental, ils ont presque perdu des phalanges.
Oui. Quand on peut rêver, c'est pas parce qu'on a 40 ans qu'on a plus ces petites illusions, hein.
Oui, Google l'aurait racheté, peut-être, mais Microsoft l'a racheté pour l'ouvrir. Allez, c'est comme Oracle qui va racheter MySQL et qui va continuer à le développer sans a priori. Allez,
Ouais,
on y croit.
à fond, comme
Ouais.
c'est vendredi 13.
Complètement.
Allez hop, au suivant. Et donc on passe à notre Google de la semaine, et cette fois-ci c'est Google versus CopyPress. Le verdict est tombé le 5, si je ne me trompe pas, le 5 mai exactement,
Oui,
et
ça.
Google a été reconnu en appel, eh ben, coupable. Dommage pour
Perdu.
eux, perdu.
Perdu.
Non, il leur reste la cassation, mais la cassation, ça implique
Ça
de
implique un
trouver une
vice de
vis de
procédure.
forme, voilà, un vice de procédure. Enfin, nul doute que Google fera plancher ses armées d'avocats dessus,
Oui, je pense qu'ils
mais
avaient déjà annoncé qu'ils allaient tenter la cassation, hein, quoi qu'il arrive.
concrètement, voilà, donc Google n'a plus le droit d'utiliser sur Google News le.
Même sur Google, dans
Et
les
même sur
caches.
Google, voilà, les extraits des organes de presse repris dans le jugement. Et il y en a quand même pas mal, je crois. Hein.
Bah en fait, oui, CopyPress, ça représente énormément de journaux en Belgique, francophones et germanophones. Enfin, le problème pour Google, c'est que c'est la première fois, à ma connaissance, qu'ils sont condamnés pour ce type de pratique, en tout cas vis-à-vis de la presse, parce qu'ils ont été condamnés pour des milliers d'autres choses. Parce qu'on le rappelle, la pratique de Google, c'est un peu on fait et puis on verra bien si ça emmerde quelqu'un. Et en
En
fait,
gros, c'est ça, oui.
voilà, le fait ici qu'ils soient condamnés en Belgique sur la législation de droit d'auteur qui oblige Google à demander l'autorisation des auteurs et éventuellement les rémunérer pour diffuser leurs articles et photos de presse, ça signifie que d'autres agences qui représentent d'autres groupements de presse en France, en Espagne, en Allemagne ou autres en Europe ou qui ont des législations très similaires à la Belgique vont pouvoir
Vont
se saisir
sûrement
de ce
sauter dans la
jugement.
berge, oui,
Ah oui.
dans la brèche, et invoquer le cas belge comme jurisprudence, Et Google va commencer à déguster.
Oui, ça risque d'être assez problématique parce que non seulement il y a bon Google News, ça repose un petit peu sur, enfin voire complètement sur ce phagocytage des articles des sites. Hein. D'ailleurs, un informaticien y est repris et ça fait toujours pas mal de visites sur le site quand on y est repris. Donc, d'un point de vue personnel, moi, je suis content quand Google l'utilise parce que le texte qu'ils utilisent est généralement ne fait pas toutes les news. Mais voilà, ça, c'est sur mon point de vue personnel. Mais si effectivement ils peuvent plus utiliser aucun des articles de la plupart des journaux quotidiens en Belgique, ils n'auront plus beaucoup de news à publier en ligne à part de quelques blogs.
Non,
Donc
mais
leur Google
bon.
News, il est mort dans l'œuf.
Ouais, oui et non. Alors, on va peut-être. Bon, allez, ça va, je vais prendre ma casquette de méchant de service et retrousser mes manches et commencer, comme d'habitude, à développer ma théorie du complot. Je peux? Allez. Google
Vas-y.
News, bon, effectivement, c'est le service de Google qui est resté le plus longtemps en version bêta. Ça, c'est vrai. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut voir derrière tout ça? Bon, d'un côté, on a le fait que on a un marché publicitaire qui perd en moyenne 10% par an, 10 à 15% par an, et qui va probablement continuer à faire la même chose dans les 4 à 5 années qui viennent. On a le fait que les journaux papier, j'entends, et les journaux online traditionnels, donc ceux qui représentent les grandes enseignes établies, style Le Soir, La Libre Belgique, etc., sont encore trop peu tribut trop pardon trop tributaires d'un lectorat d'un certain âge qui est habitué à être fidèle à telle ou telle enseigne. Donc en fait, il y a un manque de lectorat jeune qui lui a plus tendance à se ruer sur blog, Google News justement et ce genre de choses. Et donc voilà, on a un manque à gagner qui est assez gigantesque pour les organes de presse représentés par CopyPress. Et de nouveau, on est en droit de se demander s'il n'y a pas derrière tout ça, au-delà de la problématique du droit d'auteur, on ne va pas revenir là-dessus, une motivation bassement matérielle, qui est de se dire, Google, ils ont des milliards et des milliards et des milliards, on va compenser les pertes qu'on a en demandant à Google de payer pour pouvoir utiliser nos articles et
Ouh,
continuer.
c'est là que tu veux en venir. Oui, mais non, enfin,
Tu
oui.
penses pas? Ah oui, je sais que c'est
Écoute,
un peu machiavélique,
un
mais je
petit
ne serais pas
peu, oui, mais
étonné de ce genre de choses.
quand on voit les sites, c'est vrai que les rédactions, la plupart des rédactions en ligne sont déficitaires, hein, ça c'est clair. Et d'ailleurs, il y a eu un rapport du CIM il y a quelques jours qui disait encore que dans les budgets publicitaires en Belgique, ben, c'était la part belle, c'était la télé, plus de 40%, si mes souvenirs sont exacts. Et on redescend télé, radio, quotidien, et pour finir, le tout dernier média, vraiment le tout petit dernier, c'était quelques pourcents, à peine 4, moins de 5% pour Internet. Donc c'est vrai que il y a pas mal de gens qui travaillent sur ces nouveaux médias pour publier des articles de fond, et en définitive, la publicité ne suit pas pour payer ces journalistes. Donc voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'il n'y a pas le consommateur, lui, ne paye pas le média directement aux journalistes pour y accéder. Donc il y a un problème de revenus, mais je pense pas que c'est juste en attaquant Google qu'ils vont pouvoir, ils vont se dire on va récupérer de quoi payer nos petits gars.
Non, ce
C'est
n'est probablement pas, ce n'est probablement pas un exclusif ou une motivation unique, mais je serais étonné que la motivation ne soit pas, enfin que ce point-là n'entre pas en ligne de compte dans la motivation.
En attendant, j'ai retrouvé le répertoire de CopyPress. On a quand même tout le groupe Vers l'Avenir, donc il y a aussi le courrier de l'ESCO, Vers l'Avenir, On se ressemble, Brabant Wallon, Namur, etc. Le courrier, donc en gros, c'est toutes les éditions de Vers l'Avenir, Grandes Échos, ils en ont deux, IPMSA, donc tout ce qui est DH, DHnet et compagnie, l'ESCO. Le soir, avec toutes les éditions, que ce soit Rossel, La Vie du Net, Le Guide, Région, Le Fil d'Info, la Référence, Imo du Soir, etc., etc. On a Sud-Presse qui là aussi est dans un copy-press avec Sud-Presse, la Meuse, la Capitale et j'en passe. Et c'est tout. Mais ça représente, à moins que j'en ai loupé un, je n'ai pas vu la Libre, par exemple.
Non, la Libre n'en fait pas partie, je crois.
Donc tous les autres en francophone, mais ils y sont. Donc si on n'a plus tous ces journaux sur Google News, Google News BE en français, moi c'est des journaux français ou la fin de Google News Belgique.
Je ne pense pas, parce que, bon, d'après ce que j'ai cru comprendre, bon, Google semble déjà avoir obtempéré et retiré les titres de la presse incriminée du service news, et en fait demeure aujourd'hui, côté francophone, ben, Skynet.be, il y a mieux, 7 sur 7, ça c'est le fond du panier,
Oui, mais
RTL et la RTBF.
ces sites utilisent pour la plupart aussi l'agence Belga pour la plupart de leurs news,
Exactement.
et je ne sais pas ce qu'il en est de l'agence Belga vis-à-vis de CopyPress, hein, donc s'ils sont affiliés ou pas, ou s'ils vont aussi se défendre de nous on veut pas. Parce que je
Mais
suis pas
donc
sûr qu'ils aient
effectivement,
l'autorisation de republier les trucs de Belga sur Google.
oui, sauf s'ils ont des accords avec Belga, mais ça, on n'en sait rien. Maintenant, bon, effectivement, est-ce que c'est la mort de Google News en Belgique? Est-ce que ça va être le signe d'une série d'actions à travers l'Europe qui vont se baser sur la décision belge et l'utiliser comme jurisprudence? Je sais pas, on verra. Mais ce qui est certain, c'est que
Je serais curieux de voir aussi.
Google va peut-être devoir justement revoir sa stratégie du on le fait et puis on voit si ça dérange quelqu'un par on va peut-être d'abord demander si ça dérange personne et puis on le fait.
Je serais curieux de voir aussi ce qu'ils vont faire, parce qu'à l'époque, quand ils avaient été condamnés la première fois en 2006, ils avaient retiré du jour au lendemain tous ces journaux de moteurs de recherche aussi, plutôt que de juste supprimer le cache et la version Google News. Et d'ailleurs, je me demande s'ils sont revenus depuis. Oui, en tout cas, le soir y est. Mais et combien de pages pour le soir? 50 197 000 résultats. Ok, donc le soir est de nouveau indexé, en tout cas. Et est-ce qu'ils vont refaire la bêtise de supprimer les sites de leur Google Search? Ce serait assez amusant, tiens.
Ce serait amusant, mais
Oui, ce serait délirant.
ce
Hein.
serait un peu délirant, quoi.
Mais en tout cas, pour le site du soir, ils n'ont plus de version cachée.
Bon.
Bon, ben voilà. CopyPress a gagné. RIP
CopyPress
Google.
a gagné, ouais.
Alors, le dernier sujet du jour, c'est, ah, de nouveau, hein, les sempiternelles questions de design, d'innovation. On en a. Ça me refait penser au sujet sur. Voilà, je vais y arriver. Hein, la bout de la langue, il y arrive, il y arrive. L'obsolescence programmée. Je ne sais pas
Oui.
toi, mais en fait, quand on s'est fait inviter cette semaine pour le nouveau line-up de Packard Bell, bon, très gentil, très sympa, les gars, rien à redire, et ils ne sont là que pour représenter ce que le groupe fait au niveau mondial, donc il n'y a pas de. On va pas leur taper sur les doigts pour ce qu'ils font, mais.
Non, parce que franchement, attends, les gars, ils représentent au niveau Benelux 0,22% de
Oui,
Packard Bell.
mais ça représentait quand même quelques centaines de millions, hein.
Oui, ça représentait 44 millions, mais bon, ça
Ouais.
ne fait que
44
0,
millions, c'était tout? Oui, c'est vrai que
ouais,
c'est vrai, c'était pas mal, quand même.
0,22% de Packard Bell, donc oui,
Voilà.
effectivement, ce sont.
Ça rigole un peu.
Voilà.
Et
Mais ceci dit, effectivement, ce sont des gens extrêmement sympas.
voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on avait? On avait plein de nouveaux portables, des nouveaux écrans, des nouveaux, une tablette qui est en fait la même tablette que la A500, mais avec un gros logo Packard Bell et qui ne sortira qu'au mois de juillet, donc
Oui, parce
deux
que
mois
pour
après
ceux
sa
qui ne le
fête.
savent pas, Acer et Packard Bell, c'est Schuber et Verschu.
Oui, c'est Acer, Packard Bell et
Gateway, qui a
Gateway.
été Gateway et eMachines.
Tout ça, c'est la même marque, c'est Acer.
Voilà.
Hein, en gros. Et donc, la A500 rebrandée en rouge, on a des portables qui ressemblent de nouveau un petit peu au branding Acer, on a quelques petites machines, quelques petits desktops, et grosso modo, c'est tout. Des netbooks, hein, évidemment, et les netbooks, la gentille dame qui faisait la présentation de chez Packard Bell, aussi bien les netbooks que les portables, Quel est le point sur lequel on insistait le plus? C'était pas qu'ils avaient un Windows X7 ou un XP ou un Vista professionnel, c'était pas qu'ils aient un Core i7, c'était pas qu'ils aient plein de mémoire, c'était pas qu'ils aient un SSD ni
Non,
un
c'est qu'ils
écran
étaient
LED.
roses.
C'est qu'ils étaient roses, c'est qu'il était argenté, c'est qu'il était bleu ondulé. D'ailleurs, ça ne te plaisait pas, mais je trouvais ça encore sympa le bleu ondulé.
Non,
Et c'est
attends, franchement, t'avais l'impression qu'il était à moitié fondu.
T'avais l'impression que c'était fait un petit peu écrasé, mais il était encore joli, c'était un style. Mais voilà, c'est toute leur gamme, c'est du style.
C'est du design.
C'est du
Non,
design.
c'est pas du design, c'est du fashion. C'est aujourd'hui vouloir vendre à Madame Pichemou. Non, peut-être pas Madame Pichemou, mais Mademoiselle Pichemou, le laptop qui va pouvoir s'accorder avec la dernière tenue à la mode qu'elle a découvert
Avec
lors
la
de
couleur de sa
son, avec la
voiture,
couleur de
avec...
sa voiture, avec ses godasses, avec son sac à main, avec son chihuahua peut-être, je sais pas, mais voilà, c'est plus du fashion que vraiment de la performance ou de l'innovation technique. Bah, quoi que l'innovation technique, il y en a un petit peu quand même, mais vraiment, elle
Qu'est-ce que
est.
tu as vu sur les portables,
Mais le
les
seul truc que
trucs?
j'ai vu qui était quand même relativement sympa, mais c'est bien le seul truc, c'est ce fameux système combo Unijack pour les casques micro, où ils ont remplacé les deux jacks séparés par un seul jack à deux niveaux. C'est con, mais il fallait y penser, et c'est sympa. Mais à
Ouais,
part ça,
ok,
il n'y a rien
mais bon,
de, y a pas de truc d'intéressant.
ça reste franchement pas l'innovation de l'année, hein.
Ça reste pas l'innovation de l'année, c'est le petit gadget sympa, mais je le mentionne parce que j'ai rien trouvé d'autre.
Oui,
Je n'ai rien
non,
trouvé d'autre.
l'écran, on nous a bassiné sur c'est génial, c'est un écran où le pied est décentré, donc c'est la grosse nouveauté, c'est le pied est décentré et il existe en blanc. Oui, génial, ok, ouais, l'écran existe en blanc.
Oui, effectivement, c'est
Donc
assez.
le gros avantage pour le constructeur, si on arrive à se battre sur ce terrain plutôt que de se battre sur les performances, c'est que au lieu de se poser la question de mettre 200 ingénieurs pour bosser sur le nouvel écran, c'est que ils ont juste à faire travailler, enfin juste avec les guillemets, à faire travailler quelques designers pour sortir le même écran avec une nouvelle coque pour l'année prochaine.
Exactement.
Et Madame Pichemou, elle va changer son écran, non pas parce qu'il est plus performant, mais parce
Mais
qu'il a la
parce qu'il
bonne
est plus beau.
couleur.
Voilà, exactement.
Et on en arrive de nouveau au même esprit d'obsolescence programmée. Mon clavier continue à fonctionner, mon clavier est moche, il faut que je change mon clavier.
Et c'est encore plus terrifiant parce que les incitants de la mode et des tendances sont beaucoup plus puissants auprès des non-technophiles que les incitants technologiques. Et donc en fait, c'est vachement intelligent ce qu'ils ont fait parce qu'ils ont réussi à trouver comment pousser les gens qui n'ont absolument aucun intérêt à changer de PC tous les 2 ans parce que le nouveau a un Core i7, parce que le nouveau passe de RAM DDR2 en DDR3, parce qu'il passe avec une carte graphique de Nvidia série 4 et une Nvidia série 5 ou bien une série 6. Non, ils en ont rien à foutre, ces gens-là. Mais par contre, leur PC sera blanc, brillant, avec des petits diamants devant. Oh, ou
Ouais,
bien il
c'est...
sera bleu ondulé. Mais c'est terrifiant. Parce que, encore une fois, c'est prendre les gens pour des cons.
Oui, mais non, c'est prendre les gens pour ce qu'ils sont. Les gens s'attachent à l'apparence du truc. Quand on vend un clavier Microsoft ergonomique, on sait que les geeks vont être intéressés. Même à Pichemou, elle s'en fout du clavier ergonomique. Elle en veut un rose parce que le rose, c'est joli. Et effectivement, il y a quelques semaines, j'en veux pour preuve ma sœur qui cherchait un netbook. Et je lui en montre quelques-uns sur une page d'un site belge. Et qu'est-ce qu'elle, la première chose sur laquelle elle flash du netbook? Ah, je veux celui-là, il est rose. Donc oui, elle s'en fout que le netbook, il soit plus performant que le précédent, ou qu'il fasse 7h30 ou 7h ou 4h d'autonomie. La seule chose qui l'intéresse, c'est qu'elle se doute qu'elle saura utiliser son Word dessus pour éditer ses fichiers, qu'elle saura regarder ses photos, elle saura aller sur Internet. Alors, elle sait faire ça. Le reste, elle s'en fout. Elle veut qu'il soit rose.
Oui.
Et donc c'est un peu mauvais pour nous, informaticiens, parce que se battre sur des
Sur des
technologies...
concepts aussi, se battre sur
Non.
des concepts aussi
Ça n'a plus aucun
subjectifs que la
intérêt
couleur. Non, ça
pour
n'a
nous.
plus aucun intérêt.
C'est bien de faire ça dans des magazines Flair, Elle et Ciné Revue ou que sais-je, pour Monsieur Tout le Monde, quoique Ciné Revue, notre confrère fait encore quelques tests, mais je parlais plus dans les pages Monsieur Tout le Monde. C'est... Pour les constructeurs, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'ils touchent un beaucoup plus grand public. Mais
Exact.
pour nous, informaticiens, ben on peut se dire que la guerre est finie et ça sert à rien. On n'aura plus plein d'innovations sur les netbooks et sur les notebooks, sur les claviers, sur les Bon, ben effectivement,
Si,
il y en
sur
a
des
peut-être
marques
plus, hein.
si, sur des marques professionnelles peut-être, sur des marques qui continuent à toucher un public plus de geeks, ou alors on va vraiment assister à un clivage de plus en plus marqué entre les technophiles et les geeks qui, eux, vont se tourner vers des configurations de plus en plus technologiquement évoluées, et Madame Pichemou qui effectivement va continuer à acheter son PC uniquement parce qu'il a la bonne couleur ou parce qu'il est assorti à sa bagnole. Mais le problème, c'est que faire parler ces deux mondes, je suis terrifié à l'avance le jour où ma cousine va débarquer avec son netbook rose et me demander pourquoi il tient que 3 heures alors que sa copine Samantha, qui a le netbook vert, le tien, il tient 6 heures. Va lui expliquer ça.
Oui, je pense même pas qu'elle se posera la question. Tu sais, ça va être son verre aurait été remplacé depuis 6 mois parce qu'il en voulait, elle voulait plus un verre, mais elle en voulait un Winnie parce qu'il sortait le nouveau
Ou
film de
bien,
Winnie l'ourson.
oui, ou bien Hello Kitty, oui, c'est très à la mode aussi.
C'est à quand le netbook avec les coques interchangeables, hein? Ah,
Mais je crois que Packard Bell. Attends, c'est
ils avaient
Packard
sorti ça?
Bell? Non, ils n'avaient pas sorti ça. Je ne sais pas. À un moment pendant la conférence, ils ont mentionné, je me suis peut-être trompé, mais j'ai eu l'impression qu'ils mentionnaient la possibilité pour un modèle de l'avoir dans n'importe quelle couleur au choix. Exactement comme tu vas
Magnifique.
chez ton concessionnaire, tu as un nuancier, et ben pour un supplément, tu as la teinte que tu veux pour la bagnole. Si tu veux vert pistache écrasé pourri depuis 3 jours, tu auras ton vert pistache écrasé pourri depuis 3 jours. Et si tu veux ça comme coque pour ton portable, tu l'auras. D'ailleurs, c'est Dell qui avait fait ça, qui avait commencé en permettant d'avoir une certaine série de ces portables dans la couleur qu'on voulait. Ils ont même fait des pubs complètement déjantées pour ça, avec une vue d'une usine style Mickey, avec enfin complètement délirant. Mais voilà, le mouvement était commencé, il n'y avait qu'à s'engouffrer dedans comme pour le reste. Et quoi, le prochain portable Toshiba, il sera vert à pois rouge?
Oui, où on n'y est pas encore, mais enfin du moins pas que je sache. Mais la tendance du Hello Kitty ou du nouveau film à la mode qui a son portable en même temps,
Oui, le
ben
merchandising va débouler grave, hein. À quand le portable Avatar, tout bleu?
Tout à fait possible.
Ouais.
C'est désespérant, hein.
Totalement désespérant.
Et donc voilà, pour une fois, on a fait tous les sujets qu'on avait dit, hein, comparé à la
Ouais.
dernière fois. Et puis, je ne sais pas si tu as remarqué, mais on n'a pas cité le gros mot du jour, Android.
Non, et on n'a
On n'a
pas
pas
cité
parlé
l'autre gros
d'Android.
mot du monde, du moment, iPhone.
Et
Non.
pourtant, il s'en passe des choses avec Android pour le moment. Mais non, on en reparlera certainement dans le prochain podcast.
On en reparlera effectivement, on a des trucs assez sympas à vous raconter à propos d'Android. On a
Oui,
des
mais cassons
trucs.
pas tout de suite tout, hein, il
Non,
faudra.
mais on va juste leur donner une petite envie. On vous parlera d'un grand opérateur télécom qui a fait des siennes les 2 dernières semaines.
Oui, peut-être, on verra d'ici là s'il n'y a pas eu plein d'autres choses dans l'actualité.
Ouais,
Par contre, on
exactement.
m'a annoncé, et là je ne sais pas encore ce que c'est, mais un événement presse, enfin Android, en juin, dans les environs du 9 au 10 juin, là aussi quelque chose qui, à mon avis, viendra du côté de HTC, hein, mais suspense, hein, qui débarquera en Belgique. Si ça tombe, c'est juste un nouveau téléphone.
Tiens, à propos de téléphone, tu pourras nous faire le compte rendu de ton nouveau joujou?
Que je n'ai pas encore ouvert, mais...
Que t'as pas encore ouvert? Oh, la honte.
Voilà, pas le temps et je travaille, messieurs.
Ouais,
Je travaille,
je
c'est...
sais, je sais. Bon, ben, on va laisser les gens retourner à leurs occupations favorites, c'est-à-dire autre chose qu'écouter les deux crétins qui divaguent.
Voilà, et puis, mesdames, s'il y en a une qui écoute, dites-le. On désespère d'en avoir une auditrice. Et
Et
puis,
voilà.
messieurs, merci de nous écouter, hein. Quand même, on va pas cracher dessus non plus. Et puis, si vous nous écoutez, au moins dites-nous un petit bonjour une fois de temps en temps, ça fera toujours plaisir.
Voilà. Allez, et ben à la prochaine les potos et
Bise à la femme.
bis à la femme. Voilà. Ciao, ciao.
Salut.